Tout commence en 1935, ou encore plus tôt. L'histoire sera courte, mais toutefois édifiante. Une tornade va bientôt éclater. Les eaux montent, et le fleuve va bientôt déborder et inonder les jardins. Il naît dans une cabane, au bord du fleuve, un fleuve gris, très vaste. Là, les jardins bordent la rivière. De l'endroit où il se trouvera, une minuscule cabane légère, il verra se préparer la tempête, s'amonceler les nuages et monter les eaux. Il verra le fleuve se gonfler et s'agiter. Il songera un instant à son frère jumeau et lui parlera en silence. Il aura peur et se réfugiera dans sa chambre avec ses ours de paille. Et la maison tremblera, mais sera épargnée. La tempête passée, une lourde accalmie régnera sur le village détruit. Mais sa maison sera intacte. Alors le père, la mère et lui, leur fils, se réuniront sous le porche pour voir les dégâts causés aux cultures et aux bâtiments. De cet endroit, il apercevra des nuées blanches, de la pluie, de la boue. Il pourra voir les champs jusqu'au fleuve et au-delà, d'autres champs gris ou rouges, comme une partie du ciel, la veille. C'est une famille de trois personnes. La mère, à droite, a un très beau visage, maigre et pâle. Ses cheveux châtains sont tirés en arrière et attachés dans la nuque. Elle a de petites oreilles délicates, des yeux sombres ou lumineux. Elle ne nous regarde pas. Elle doit fixer un point à gauche, une fleur de la tapisserie, ou un insecte, ou un clou planté au beau milieu du mur. Elle fixe un point de l'horizon. Elle porte une robe à fleurs bon marché. Elle ne sourit même pas au photographe. Ce vieil homme, fatigué et gros, qui tient à prendre une bonne photo. Elle ne lui sourit pas. Sa main droite est posée sur l'épaule de son mari. Celui-ci porte une chemise claire, un chapeau rejeté en arrière, des lunettes peut-être. Il est maigre, il a faim, ils ont tous faim, et c'est bientôt l'heure du repas. Le soleil les éblouit tous les trois. Le gosse est debout entre eux, les jambes écartées. Il ne sourit pas, il porte un bleu. Une chemise blanche qu'il vient de salir en jouant avec du charbon, dans le jardin ou dans la cour. Le chapeau qui le coiffe est incliné sur ses yeux. Il a le regard pénétrant et tranquille. Une moue légère déforme ses lèvres. Il n'est même pas charmant. Puis il prend les traits délicats de sa mère. Il a les cheveux blonds et de grands yeux. Il est beau. Et le soleil l'éblouit. Mais sa lèvre reste tordue, déformant la bouche. Et sa lèvre restera tordue. Plus tard, il devient plus mince, plus pâle. Il est dévoué à sa mère, un gosse bien propre qui aime sa mère. Et le garçon, avec son innocence, aide ses parents dans la petite cabane. La mère confectionne des vêtements, transporte des caisses, tourne la manivelle de sa machine. Lui, il songe à son frère, et contemplant les champs étendus à perte de vue à l'extérieur, il chante et entend les autres chants, les autres bruits provenant des fabriques et des églises, les autres murmures. Il chante en balançant son corps, debout, les jambes écartées. Il chante pour sa mère, limpide, frémissant. Il chantera pour sa mère. Celle-ci grossira, n'arrêtera jamais de grossir au fil des années. Une tornade détruira son village au bord du fleuve. Son jeune frère mourra très tôt, avant de le connaître dans cette vaste campagne. Son jeune frère mourra sans avoir vu d'alligator. Il chantera pour sa mère. Le gosse triste chantera très vite pour sa mère et pour leurs amis, pendant l'orage, après le travail, en hiver comme en été, n'importe où, le jour ou la nuit. Il pourra à loisir contempler le fleuve et chanter avec ses frères de sang. Il verra sa mère grossir avec les années et son père vieillir au travail. Il possédera une guitare, jaune ou brune, une petite guitare, un instrument à six cordes métalliques. Et le métal des cordes ne cessera plus un instant de sonner dans la petite chambre, sur le toit, sur le balcon, sous le porche de bois, au jardin, au champ, à la fabrique, à l'église, dans le vent, le long du fleuve, et sonneront ses chaussures, et claqueront ses talons froissant les chardons et les fleurs de prairie. Les cireurs de tupes applaudiront souvent le gosse venu leur parler du mystérieux train traversant tout le pays, venu danser pour eux avec ses hanches, avec ses jambes et ses cheveux noirs dans les yeux. Les cireurs et les marchands de tupes applaudiront sa danse et son chant. Il ne chantera qu'en murmurant, le visage dans l'ombre. Il voudra se rendre en ville pour chanter sur les places et debout dans la benne des camions pour ses amis les livreurs. Debout il criera, debout il chantera en dansant et finira par s'agenouiller dans la poussière, son chapeau à ses pieds. L'entoureront pour l'applaudir ou pour le lapider tous les marchands du village, ainsi que mains cireurs de chaussures aux mains jaunes, ainsi que tous les enfants et certaines femmes séduites par ses mélodies. Le jeune chanteur interprétera des chansons simples mais très rythmées, parfois violentes. Il parlera de sa mère, de son pays, de sa joie, de Dieu, du train, de son cœur. À ses amis, il parlera de sa mère, de la fatigue de sa mère. Non, non, jamais il ne parlera de la fatigue. Ses chansons seront joyeuses, il parlera du soleil, parfois de la solitude. Et bientôt, beaucoup de gens connaîtront son nom, puis son visage. Un visage pâle, un visage entouré d'ombre lorsqu'il chantera. Bientôt on connaîtra son nom, bientôt on oubliera son nom. Son visage restera marqué dans les mémoires. On se montrera ses photographies, on parlera de lui. On ne pourra plus jamais l'oublier. Mais sa mère ne cessera plus de grossir, ni son père de vieillir au travail. Il commencera à aimer le lait, à en boire après le repas. Sa boisson préférée sera le lait froid. Il désirera posséder une limousine, une voiture rapide et luisante au soleil comme sous la pluie. Une voiture qui pourra le conduire partout dans la plaine. Il voudra acheter une panoplie noire ou une magnifique boîte de crayons de couleur, un coffret laqué embaumant la rose ou simplement le bois. Il s'obstinera à jouer tous les jours de la guitare. Il continuera à chanter. Il chantera dans le noir, dans l'obscurité de sa chambre. Bientôt, il se teindra les cheveux et apparaîtra vêtu de sa chemise blanche et de son pantalon rayé. Les cheveux noirs, il chantera, le visage entouré d'ombre. Il chantera en murmurant. Sa mère aimera ses premières chansons et l'encouragera un peu, lui achetant une guitare et des vêtements. À la fabrique, elle parlera de lui. Elle y dérobera peut-être l'une ou l'autre chose pour lui. Une chemise, une veste, un blouson rouge. Il chantera surtout devant leur maison, sous le porche, assis ou accroupi le dos à la cloison, mais la plupart du temps debout, les jambes écartées, dans sa position favorite. C'est dans cette posture qu'il chantera ses plus beaux chants, qu'il criera le plus fort. À l'église, vêtu d'un blouson écarlate, il se lèvera, frémissant, pâle, lumineux, et chantera longuement, sa voix se répercutant aux voûtes, tantôt claire et violente, tantôt sourde et douce, et à d'autres moments comme glacée. Il chantera alors, jusqu'à perdre le souffle. Lorsqu'il chante, c'est un véritable miracle. Il ne chante qu'en murmurant, entouré d'ombre. Diverses fleurs encadrent son visage livide et sa lèvre inférieure tremble, frémit. Il dit de belles choses, il parle de son pays. Il chante pour Vera, il chante pour sa mère. Sa bouche s'ouvre et se ferme. De grosses fleurs encadrent son visage. La radio marche et produit des sifflements. Il fera la connaissance de Déborah, petite fille rousse, toujours vêtue d'un lainage orange et d'un pantalon bleu. Ensemble, ils longeront le fleuve jusqu'à la ville, en voiture. Et le soleil couchant jouera sur les tempes de la jeune fille, sur le nez du jeune homme, rebondissant sur les chromes intérieurs de la machine. À cause du soleil rasant, la jeune fille, Déborah, gardera les yeux clos. Mais la bouche entrouverte, laissant au garçon le loisir de la reluquer. Au volant, le gosse chantera, le soleil faisant cligner ses yeux. Aveuglé par le soleil de feu, à bord de ma belle charrette, j'emmène mon amie au bal. Et comme elle est profondément endormie, je peux la regarder et murmurer. Nous sommes dans sa chambre, au milieu de ses effets. Le garçon nous regarde. Il se prépare à chanter, à nous interpréter une chanson qu'il vient d'apprendre. Son chapeau, très coloré, est rejeté en arrière, comme avant, comme celui de son père. Il est torse nu. Il a mis sa montre et a préparé des disques. Sa bouche, légèrement entrouverte, laisse paraître ses dents dont la blancheur nous étonne. Il est charmant. Il nous plaît. Nous écoutons sa musique. Bloom, you saw me standing alone without a dream in my arms. Without a love on my own. Bloom, you knew just what I was there for. You've heard me sing a prayer for someone I really could care for. Ooh.
love on my own. Without to love on my own. Without to love.